Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca. La référence en électromobilité.
L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
On ne se fera pas voler notre centième de silence on roule, je vous le promets. Verra-t-on un nouveau programme de crédit d'impôt aux États-Unis bientôt? Le Minnesota taxerait l'électricité comme du carburant. Le 3 avril prochain, on pourra placer notre commande pour un Hummer EV. Chronique 100% net zéro, Nicolas Lambert nous parle des barrages qui sont nos batteries. De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand, on parle de la chute des prix de Tesla ainsi que du retour de la Renault 5 électrique. Comprendre son auto en 60 secondes top chrono, faut-il éviter de se brancher aux bornes rapides? En grande entrevue, l'installation d'une borne de recharge résidentielle avec un expert de FFC électrique. Tout ça et bien plus encore dans la 98e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, comme c'est la coutume, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines, que vous avez profité de cette belle semaine qui se termine et qui, ma foi, nous indique des petits signes précurseurs du printemps. On ne l'aura pas volé, puis on s'en réjouit tout le monde d'avoir des températures un peu plus clémentes. Écoutez, aujourd'hui, on a une émission tout à fait fantastique de concocter pour vous. On va avoir notre ami Nicolas Lambert qui va nous parler des réserves d'énergie et pourquoi le Québec est la batterie, est considéré comme une batterie pour l'Amérique du Nord. On va également avec Cédric Ingrand, notre ami et collaborateur directement de France, discuter de certaines petites actualités là-bas, dont la chute des prix quand même assez énorme de la Tesla Model 3 SR Plus là-bas. Il va nous parler de ça et de ses impacts, ainsi que d'autres nouveautés. Et puis, en grande entrevue, on va parler avec un maître électricien qui va nous parler de l'installation des bornes de recharge à domicile, les implications, puis pourquoi il faut que ce soit un job qui soit bien fait et l'impact aussi de tout ça là, sur les subventions qui sont attribuées pour l'acquisition, l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques résidentiels. J'en profite pour vous dire, vous l'avez vu, vous le voyez d'entrée de jeu, puis je vous l'ai dit, on est rendu à l'épisode 98, on approche la centième, plusieurs me demandent, Martin, fais-tu quelque chose pour la centième? Bien sûr que oui, ça fait des mois, je vous dirais peut-être même pas loin d'un an que je commence à travailler là-dessus puis qu'on commence à en discuter, moi et les collaborateurs. Notre problème, c'est très simple, c'est la Moses de pandémie qui vient jouer dans nos plates-bandes parce que pour la centième, je vous le donne en mille, on veut faire un événement devant public. Donc, les gens intéressés pourront venir. Les collaborateurs, en grande partie, vont être présents. On va avoir des surprises, des tirages. Ça va être live devant public. Donc, je pense que ça va être un événement mémorable. Par contre, la centième, on était au 98. Donc, c'est dans deux épisodes, donc dans un mois. Je doute que les conditions, les règles sanitaires fassent en sorte que tous les Québécois de toutes les régions pourront se rassembler dans un lieu public, que ce soit un pub ou autre, pour cet événement-là. Mais nous ne nous ferons pas voler ce centième par une pandémie. Ce n'est pas vrai. On est arrivé avec une solution tout à fait originale. C'est très simple. Pour ne pas se faire voler la centième, nous allons la cacher, la mettre de côté. On va passer de l'épisode 99 à l'épisode 101. L'épisode 100, je le garde dans ma poche en arrière. Dès que ça ouvre, dès qu'on peut faire un événement public, je le ressors, puis on fait notre party, puis on célèbre ensemble le centième épisode du podcast. Donc, on ne sera pas en reste, mais on va être capable de fêter comme il se doit. Je trouvais ça triste ça, de faire un événement à moitié ou de tout simplement rien faire. Je préfère de beaucoup repousser l'événement, puis je ne voulais pas non plus attendre la 200e pour qu'on puisse se faire un événement devant public. Plusieurs m'ont demandé de faire quelque chose de spécial, qui avait le goût de participer. Ça sera le cas. Donc, restez aux aguets sur le podcast et dans nos publications sur Facebook. On va vous tenir au courant pour à savoir là, quand aura lieu cet événement public. D'ici là, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres Teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nano-céramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nano-céramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres Teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres Teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE.
Le gouvernement fédéral américain avait mis sur pied un programme d'incitatif pour les acheteurs de véhicules électriques sous l'administration Bush et ça avait été extensionné sous l'administration Obama. Ce programme accordait 7 500 $ en crédit d'impôt à chaque acheteur d'un véhicule électrique neuf. Malheureusement, les États-Unis avaient émis pour chaque constructeur automobile un plafond de 200 000 livraisons de véhicules électriques aux États-Unis. Une fois ce seuil atteint, les manufacturiers subissaient une diminution progressive de crédit pour éventuellement éliminer tout crédit d'impôt fédéral pour les acheteurs d'un véhicule électrique de ces fabricants aux États-Unis. Tesla était le premier fabricant à atteindre le plateau en 2018. Plus tôt, au début du mois de mars, les démocrates ont présenté un projet dans le but de réformer ce programme. En résumé, cette nouvelle réforme devrait permettre aux constructeurs automobiles qui ont déjà atteint le plafond d'avoir accès à un nouveau crédit d'impôt de 7 000 $ et un autre 400 000 véhicules électriques disponibles jusqu'à la fin de la période d'élimination progressive. Il avait été initialement introduit sous l'administration Trump, mais il avait été rejeté et il a été redéposé cette semaine. Les véhicules électriques rechargés aux énergies renouvelables auraient besoin de 58 % de moins d'énergie qu'une voiture thermique sur son cycle de vie, selon une étude publiée, alors que les ventes d'électriques explosent et que des usines de batteries ouvrent en Europe. Sur toute sa durée de son cycle de vie, 60 % de l'énergie consommée par les véhicules électriques sert à le recharger, 23 % pour la fabrication de la batterie et 11 % pour la fabrication du reste du véhicule et 7 % pour la production des éoliennes et panneaux solaires. Dans le cas d'une voiture thermique, 77 % de l'énergie est brûlée sous forme de carburant, soit 17 000 litres de pétrole sur 225 000 km et 18 % utilisés pour l'extraction et l'affinement et le transport du pétrole. Volvo annonce qu'elle fabriquera que des véhicules électriques d'ici 2030, mais vous devrez l'acheter en ligne. Le constructeur automobile suédois a déclaré hier qu'il supprimerait progressivement la production de toute voiture équipée de moteurs à combustion interne, incluant les hybrides. Il n'y a pas d'avenir à long terme pour les voitures équipées de moteurs à combustion interne, a déclaré Henrik Green, directeur technique chez Volvo. L'annonce de Volvo fait suite à l'engagement de General Motors plus tôt cette année de ne fabriquer que de véhicules électriques d'ici 2035. Volvo a également, dis-je, déclaré que même si ces véhicules tout électriques seront vendus exclusivement en ligne, les concessionnaires demeureront un élément crucial de l'expérience client et continueront d'être responsables d'une variété de services importants, ainsi que le support aux ventes, la préparation, la livraison et les entretiens des voitures. Toutes les idées ne sont pas nécessairement des bonnes idées, telles qu'en témoigne la nouvelle suivante. La taxe sur l'essence reste l'une des principales sources de financement de l'industrie routière. Pour taire les critiques qui se plaignent que les conducteurs de voitures électriques ne paient pas leurs coûts d'entretien routier, la solution du Minnesota est de considérer l'électricité comme un carburant. Un nouveau projet de loi circulant au Minnesota recommande de charger une taxe sur le carburant électrique pour les véhicules électriques. Ce projet de loi considère les services publics et les réseaux de recharge comme des concessionnaires de carburant électrique et prévoit un montant de 5,1 cents par kilowattheure, ce qui implique une taxe pour plusieurs dollars par recharge de véhicule. Si ce règlement est adopté, le Minnesota taxera l'électricité utilisée pour la recharge des voitures électriques comme si c'était un carburant, rapporte le St. Cloud Times. GMC dévoilera le 3 avril le VUS Hummer électrique et les clients pourront réserver leur Hummer le même jour. Le camion GMC Hummer EV Edition 1 2022 sera le premier véhicule à être produit avec la toute nouvelle batterie Ultium de GM. Cette nouvelle architecture permettra d'intégrer des technologies de pointe pour assurer une autonomie optimale et permettre des performances et des capacités qui ne seraient pas possibles avec une architecture de véhicule et un système de propulsion conventionnel. Le camion électrique est équipé d'une batterie Ultium de 24 modules et d'un système Ultium Drive à 3 moteurs avec une autonomie prévue d'environ 565 km. Les cellules de batterie nickel et au cobalt, au manganèse et à l'aluminium auront une plus forte teneur en nickel et une plus faible teneur en cobalt que toutes les autres cellules de grand format disponibles. Les percées de la chimie Ultium permettent à GM d'utiliser 70 % moins de cobalt que la génération précédente de véhicules électriques de GM. Le véhicule électrique peut passer de 0 à 60 000 à l'heure, ou 100 km/h en 3 secondes. On pourra ajouter 160 km d'autonomie en seulement 10 minutes de recharge et l'édition 1 sera disponible pour la somme de 142 461 $ canadiens.
Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Le Québec, la batterie de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, on va s'éloigner un peu des voitures électriques elles-mêmes pour plutôt se concentrer sur leur carburant qu'on utilise pour les charger. Dans notre cas, il s'agit de notre hydroélectricité. Vous l'avez peut-être entendu ces dernières semaines, mais Hydro-Québec veut devenir la batterie de l'Amérique du Nord. Je vais donc vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là et comment notre hydroélectricité peut servir de batterie pour une région aussi vaste. Mais avant de commencer, il y a un principe de base qu'il faut comprendre dans la façon dont fonctionnent les réseaux électriques partout dans le monde. C'est que dans un réseau, la production d'électricité doit être exactement égale à la consommation faite par les utilisateurs et ce, en tout temps. Pour vous illustrer qu'est-ce que ça veut dire, si tout le monde demain matin au Québec arrêtait totalement d'utiliser de l'électricité, les turbines de nos barrages s'arrêteraient complètement. À l'inverse, à chaque fois que vous allumez une lumière chez vous, il y a une turbine à quelque part qui s'enclenche. Bon, j'avoue, j'ai un peu exagéré avec mon exemple de la lumière, mais vous comprenez l'idée. Ouvrir ou fermer les vannes d'un barrage, c'est assez facile si on veut contrôler la quantité d'électricité qui est fournie sur le réseau. La même chose se produit dans les régions qui produisent de l'électricité à partir de centrales thermiques, au charbon, au gaz naturel ou même à la biomasse. Dans ces régions-là, les contrôleurs vont ajuster la puissance de leurs centrales thermiques en ajoutant plus ou moins rapidement du carburant. Ce type de production électrique, on appelle ça une production modulable parce que c'est relativement facile de moduler la production d'électricité pour qu'elle égale la consommation faite par les foyers qui sont connectés au réseau. Mais ça, c'est pas le cas des énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien. On n'a aucun contrôle sur le moment où le vent va souffler ni sur leur intensité. C'est la même chose pour l'énergie solaire. Ce qui fait en sorte qu'on n'a aucun contrôle sur la quantité d'électricité qui serait fournie sur le réseau si on utilise ces sources renouvelables. C'est pour cette raison-là qu'on y associe souvent un système de stockage qui va emmagasiner l'électricité pour pouvoir l'utiliser plus tard au bon moment. Le stockage, ça peut être des petites batteries au lithium qu'on a dans les maisons, mais ça peut aussi être des batteries gigantesques qui sont utilisées par les compagnies de distribution d'électricité elles-mêmes. Ça, ça leur permet d'avoir un contrôle sur l'énergie électrique qui est mise sur le réseau, même si elle vient de sources qu'on ne contrôle pas. Mais avec les batteries au lithium, on peut emmagasiner quelques heures, voire quelques jours d'électricité. Comment on fait si on veut garder l'électricité plus longtemps? Par exemple, pour chauffer nos maisons en hiver avec de l'électricité qui serait produite lors des belles journées ensoleillées de juillet. Pour faire ça, ça nous prendrait des batteries immenses. Si je vous disais qu'ici, au Québec, on possède ce genre de batteries qui peuvent emmagasiner une quantité phénoménale d'électricité pendant des mois, voire des années. Je parle ici de nos barrages hydroélectriques. Ils ne nous servent pas seulement à produire l'électricité, mais aussi à la stocker à une échelle dont les batteries au lithium pourraient jamais égaler. Parce que ces batteries-là, ils réussissent à emmagasiner de l'énergie en accumulant des électrons derrière une barrière électrochimique pour ensuite les utiliser plus tard. Et c'est exactement la même chose qui se produit avec nos barrages. La seule différence, c'est que dans notre cas, l'énergie s'accumule dans les réservoirs sous forme d'énergie potentielle gravitationnelle qui serait prête à utiliser aussitôt qu'on ouvrirait nos turbines. Par exemple, dans une rivière comme la Manicouagan, les barrages qu'on a construits vont retenir le débit de la rivière tout au long de l'année en faisant monter les niveaux d'eau dans les réservoirs. Par la suite, on ouvre nos turbines quand il y a une demande d'électricité, le plus souvent en hiver lorsqu'on doit chauffer nos maisons. Mais qu'est-ce qui arrive avec l'électricité produite par nos éoliennes lorsqu'elles tournent? En fait, quand le vent souffle, on va utiliser cette électricité-là et fermer nos turbines. Et lorsque le vent s'arrête, on va réouvrir les vannes pour reproduire de l'hydroélectricité et hop, au final, on a un flot continu d'électricité. C'est pour ça que la combinaison hydroélectricité et énergie éolienne est un match renouvelable parfait. Hydro-Québec planifie même de se lancer dans la production d'électricité en utilisant des panneaux solaires. Évidemment, ces panneaux solaires produiraient plus d'électricité pendant l'été, mais ça rendrait disponible de l'énergie à l'année si on utilise un système comme je vous ai expliqué. Et c'est cette capacité de stockage que l'État de New York et du Massachusetts recherchent en voulant acheter notre hydroélectricité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent acheter? C'est pas simplement de l'électricité, mais c'est de l'électricité au bon moment lorsque leur propre énergie solaire et éolienne vont venir qu'à manquer. C'est pour ça qu'on parle de devenir la batterie de l'Amérique du Nord. Parce qu'avec ce genre de système-là, on serait en mesure de produire de l'énergie électrique renouvelable à une grande région, et ce, à l'année longue. Ça se ferait en combinant au moment opportun les différentes sources d'énergie renouvelable disponibles à différents moments. Parce que sans notre hydroélectricité, ces régions de la Nouvelle-Angleterre devront se rabattre sur des centrales au gaz pour combler les trous laissés par le solaire et l'éolien. Du même coup, ils rechargeraient leurs voitures électriques avec ultimement ce qui serait de l'énergie produite par des combustibles fossiles. Et ça, c'est évidemment pas ce qu'on veut si on veut relever le défi de la lutte au changement climatique. Sur ce, je vous dis à une prochaine!
EV Borne, à la maison en condo. EV Borne, vos subventions. EV Borne, branché au travail.
Hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EV Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 418-866-0653. 418-866-0653 ou le www.evborne.com. EV Borne, la passion à votre service.
Presque de façon inconnue, en dessous de la couverture, la réglementation a changé, il y a de ça, quand même, plusieurs mois, faisant en sorte que pour l'achat, donc l'acquisition et l'installation d'une borne de recharge pour le domicile, le modèle de subvention a changé. Quels sont les impacts ou quels sont les impacts, devrais-je dire, de ce changement? J'aimerais en discuter aujourd'hui avec François Charland, qui est propriétaire et maître électricien chez FFC Électrique. Bonjour François.
Salut Martin.
Ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. On a la bonne personne. Donc toi, ton rôle chez FFC, t'es maître électricien puis tu fais de l'installation, entre autres de l'installation de bornes, je présume?
Je vous dirais qu'environ 75% de notre chiffre d'affaires, c'est des bornes de recharge actuellement.
Oui. OK. Donc c'est un nouveau marché qui est un nouveau créneau qui est intéressant pour vous autres.
C'est un beau créneau, puis je te dirais que c'est une passion en ce qui me concerne. On pourrait en parler toute la journée, mais on va essayer de se limiter, je pense, aujourd'hui.
Ben écoute, une première petite question, je la pose souvent, celle-là. Est-ce que tu as un véhicule électrique toi-même?
Un moi-même depuis 2013. J'en suis à mon quatrième ou cinquième modèle.
Wow! Et ouais. Tu conduis quoi sans indiscrétion?
Actuellement, c'est un modèle 3 all-wheel drive.
OK, excellent. Ouais. Bon, ben c'est good. Donc, tu connais les autos électriques, pas juste parce que tu installes des bornes, mais parce que tu en conduis une. Donc, tu es un électromobiliste. Bon, on aime ça parler des électromobilistes. Ils ont une vision bout en bout de la patente. Fait que ça devrait être intéressant. La première question que j'ai envie de te poser, c'est là, toi, tu es un entrepreneur, tu es un maître électricien, puis tu te spécialises donc dans les bornes. Est-ce que tous les électriciens connaissent les bornes? Est-ce que je peux faire affaire avec n'importe quel électricien ou je dois vraiment aller dans une entreprise comme la tienne avec des gens qui font ça de façon principale?
Non, il faut absolument faire affaire qu'avec nous. Non, c'est une blague. En fait, n'importe quel électricien a le droit d'installer une borne de recharge, c'est évident. Par contre, la Corporation des maîtres électriciens ainsi que la CCQ, ces deux organisations là, qui gèrent la construction au Québec, donnent une formation par rapport aux bornes de recharge. Donc, la CMEQ, la Corporation des maîtres électriciens du Québec, a même une liste des entrepreneurs qui ont suivi cette formation-là. Okay. Donc, c'est tout à votre avantage d'engager un entrepreneur qui a suivi cette formation-là. Évidemment, c'est une nouvelle technologie, c'est un type de charge aussi, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard, qui est assez intense, 30 ampères à 48 ampères pendant plusieurs heures, chaque jour potentiellement. À un moment donné, si ce n'est pas bien installé, c'est sûr que ça peut avoir des répercussions là, sur votre maison.
OK. Et donc, si je suis un consommateur qui écoute le podcast aujourd'hui puis qui retient ses bons conseils, François, je vais sur la liste, j'en choisis un bon qui a suivi la formation. L'autre question, est-ce que je dois appeler cet électricien-là et acquérir la borne? Parce que j'imagine que l'électricien peut nous fournir la pièce d'équipement, donc la borne de recharge. Est-ce que je dois passer par lui ou non, je pourrais l'acheter n'importe où puis appeler après ça un électricien pour l'installer? J'imagine que pour vous autres, c'est pas la même game, là.
Vous pouvez l'acheter où vous voulez, évidemment. Il y a des pour et des contre à chaque approche. Et ce serait à vous de prendre la meilleure décision, là. Mais je vous dirais que de l'acheter directement d'électricien, ça vous permet d'avoir tout sous le même toit. S'il y a un problème avec la borne, vous appelez une seule personne. Puis on ne chicanera pas à dire non, c'est la borne, non, c'est l'électricien, non. Exemple, si c'est nous qui vous l'avons vendu, ben c'est évident qu'on va vous prendre en charge.
Ouais.
Donc, c'est peut-être un petit peu plus simple à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a des promotions ailleurs, puis ça va vous intéresser d'acheter chez un autre distributeur, puis ça, c'est correct aussi. Comme je vous dis, il y a un avantage à chaque approche. Là, donc,
et vous allez accepter de l'installer. Donc, parce qu'on entend dire dans tes branches qu'il y a certains électriciens qui sont pas chauds à l'idée d'installer une borne qu'ils n'ont pas eux-mêmes préalablement vendue.
Ben, je vous dirais que, évidemment, il y a une petite partie de la vente de la borne qui est un profit. Puis des fois, ça va nous arriver. On va essayer d'être un petit peu plus compétitif étant donné qu'on fournit la borne. Peut-être que l'installation va être un petit peu moins chère. Ça aussi, il faut prendre ça en compte. Il y a des électriciens qui ne veulent peut-être pas prendre le temps de vous expliquer tout ça, mais la réalité, c'est quand même qu'au final, on a un certain coût d'opération puis un certain profit qu'on veut avoir à la fin. Donc, oui, peut-être que finalement, en achetant la borne encore une fois avec l'électricien, peut-être que l'installation serait un petit peu moins chère. Il y a peut-être un autre petit avantage là.
Okay.
Mais bon, chaque entrepreneur a sa façon de voir les choses, là, évidemment.
Ouais. Peut-être bon de rappeler pour les auditeurs que dans le domaine des bornes de recharge résidentielle, là, essentiellement, là, c'est sûr là, qu'il existe des dizaines et des dizaines de modèles qu'on peut faire venir un peu partout par Internet aux quatre coins du monde, mais essentiellement au Québec, bon, il y a deux, trois, quatre modèles, là, peut-être deux qui sont hyper populaires, deux, trois autres qui commencent à être un petit peu plus populaires, mais il n'y a pas 60 modèles. Donc, les chances que votre électricien ait dans les bornes qui puissent vous vendre les mêmes modèles que celles que vous regardez ailleurs sont quand même assez grandes. Hein? Je ne me trompe pas, c'est quand même pas mal souvent les mêmes modèles.
Oui, c'est facile d'avoir ces modèles-là en stock quand il y en a 4, 5, 6 modèles seulement là, donc, dans les plus populaires au Québec. Puis il y a une bonne raison à ça en passant, là, si tu me permets. Les bornes québécoises ou canadiennes en général ont été fabriquées pour notre climat. sont un petit peu plus chères à concevoir parce que nous, on a un climat très particulier. On passe de moins 30 à plus 30 en à peu près 6 mois, là. Et donc, pour avoir des appareils qui supportent ces variations de température-là, l'humidité, le sel, le vent, tout le kit, là, c'est plus cher à concevoir. Fait qu'évidemment qu'un fabricant qui est mondial va peut-être pas concevoir ses bornes pour supporter ce genre de climat-là quand la majorité de leur marché n'a pas besoin de cette étanchéité-là. Donc, heureusement pour nous, si on veut, ben, les fabricants québécois et canadiens, eux, ont un marché qui est pratiquement seulement qu'à eux parce que leurs bornes sont faites pour notre climat.
Ouais.
Puis c'est vraiment important. Je ne sais pas si tu voulais qu'on parle du type de borne à choisir, mais c'est vraiment important d'acheter une borne qui est faite pour notre climat pour différentes raisons.
C'est majeur. Je veux dire, les gens qui se plaignent là, d'avoir acheté des bornes à bon marché sur Amazon, puis l'hiver, avoir de la difficulté juste à manipuler le câble parce qu'il vient tellement rigide par le froid qu'on a peur de le briser juste à le bouger pour revenir brancher le pistolet dans la voiture, là, et j'en passe. Donc, c'est effectivement un élément important. Et on a des excellents manufacturiers de bornes, même, je dirais, au Canada, bien sûr, mais au Québec particulièrement, là, on a quelques manufacturiers qui font des excellents produits. Donc, pourquoi s'acheter des problèmes pour sauver 25 $ sur Amazon quand on peut avoir un produit québécois d'excellente qualité avec des garanties puis du service? Donc, je pense que c'est un impact qui n'est pas à négliger, effectivement. Maintenant, quand on achète la borne ou qu'on fait affaire avec un électricien pour faire installer notre borne, il y a certaines questions à se poser. J'imagine que dans la majorité des cas, c'est pas trop problématique, mais faut quand même s'assurer que là, on va faire installer la borne, notre système électrique actuel est compatible ou suffisant pour supporter cette borne-là. Tu parlais d'une charge quand même assez grande pendant une durée. Donc, il y a certaines vérifications. Quelles sont les vérifications de base à faire?
La borne de recharge, en passant, on la considère comme une charge continue. Puis c'est quoi une charge continue? C'est quand une charge va être à 100% de sa de demande pendant plus qu'une heure. OK? Donc, précaution, si on peut dire, à prendre par rapport à ça. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est l'ampérage qui fait chauffer le câble électrique ou les contacts en général. Donc, si c'est mal installé, cette chauffe-là peut être de plus en plus chaude avec le temps. Donc, s'il y a de l'oxydation qui vient se créer sur les connecteurs, si on n'a pas pris le bon matériau pour le filage, il y a plein de petits trucs à penser. Au contraire d'un four ou d'une sécheuse, d'un chauffe-eau, où ça va fonctionner de temps en temps pendant peut-être 30 minutes, puis pas nécessairement à 100%, la borne de recharge, c'est 100% pendant, comme je disais tantôt, plusieurs heures, puis à chaque jour. Donc, très important de garder ça en tête. Bon, ceci étant dit, les maisons ont en général des entrées électriques entre 100 et 200 ampères, et dépendamment de quels appareils qui sont actuellement présents chez vous, il y a un calcul de charge qui va devoir être fait par votre maître électricien. Okay? Puis c'est là qu'on va déterminer si la borne de recharge peut être installée sans rien ajouter d'autre ou s'il va y avoir le contrôleur de charge qui va devoir être installé en supplément. Tout ça, on va discuter évidemment avec le client puis on va vous expliquer pourquoi. En général, là, règle du pouce, là, si vous avez un 100 ou 125 ampères, règle générale, la borne de recharge va nécessiter un contrôleur de charge. Puis sur une 200 ampères, s'il y a un SPA et une fournaise centrale, il risque aussi d'avoir besoin d'un contrôleur de charge. Ça, c'est juste un avant-goût. À part ça, ça, c'est l'aspect puissance. Donc, combien d'ampères en instantané qu'on peut tirer sur la même entrée électrique? Puis, il y a aussi l'aspect âge de votre panneau. Règle générale, les panneaux qui ont 10 à 15 ans, on est pas mal tout le temps capable de faire la place. On peut aller jusqu'à 80 circuits, de règle générale, dans ces panneaux-là qui sont plus actuels. Mais les panneaux qui ont 15 ans et plus, s'il est plein en est arrivé, c'est possible qu'on ne puisse pas racheter d'autres disjoncteurs. Donc, il y a des manipulations additionnelles qui vont devoir être faites. Ça va de l'installation d'un panneau secondaire. Donc, on va enlever quelques petits disjoncteurs de votre panneau principal. Ça va nous permettre d'installer un panneau secondaire à côté. Puis ces disjoncteurs-là, on va pouvoir les déplacer dans le panneau secondaire pour faire la place. Donc, il y a des coûts additionnels à relier à ça. Dans le cas de panneaux plus récents, c'est des disjoncteurs on est capable d'enlever des disjoncteurs standards et d'installer des disjoncteurs qu'on appelle tandem. Donc, ils prennent deux fois moins d'espace, ce qui nous permet de rajouter un disjoncteur, par exemple, de 40 ou de 60 ampères pour votre borne de recharge. Je ne sais pas si c'était clair.
Oui, c'était très clair. Puis je pense que ça illustre bien, par le fait même, l'importance de faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas électricien vous-même, d'évaluer la charge actuelle dans votre panneau. Est-ce que l'ajout de la borne va faire excéder la limite? Ce n'est pas toujours évident à évaluer par soi-même quand on ne connaît pas ça. Puis au fil des années, ben, souvent, on ajoute des trucs dans la maison. Puis là, je ne parle pas d'un appareil électroménager de base comme un Malexor. Là, je parle, on ajoute un spa, on ajoute un chauffe-eau électrique pour la piscine, on ajoute un paquet de trucs qui tirent pas mal de jus. Puis vous autres, vous allez évaluer tout ça. Puis si vous faites l'installation dans le panneau, c'est que vous êtes certain qu'il n'y a aucun danger et que ça respecte en tout point le code électrique.
Puis à ce niveau-là, justement, oui, la meilleure installation, c'est celle qui ne prend pas en feu, là, évidemment.
On l'espère, mais, oui.
Oui, là, je suis un peu extrême quand je vous dis ça. Mais disons qu'il y a une erreur dans tous les petits, dans tous les endroits où une erreur pourrait être commise. S'il y en a seulement qu'une, c'est possible éventuellement qu'il y ait un petit accident. S'il y a un accident et qu'on ne peut pas prouver qu'un électricien a travaillé là-dessus, bien, vos assureurs, ils vous poursuivent, vous. Là. Ils ne poursuivent pas. Tu sais, nous, on a des assurances responsabilité. Mais si c'est vous qui faites vous-même, même si vous êtes de bonne foi et vous croyez avoir fait la bonne affaire, s'il y a eu une petite erreur, c'est vous qui allez payer, c'est pas l'assureur. Parce que c'est votre faute jusqu'à un certain point.
Oui, ouais, il faut jamais oublier que c'est des grandes quantités d'énergie, hein, les véhicules électriques. Il faut être très prudent. Je pense qu'il y a une petite marge de manœuvre des fois qu'on s'octroie soi-même quand on fait des petits ajouts. On s'ajoute un piton de lumière, puis on est un petit peu bandit, puis on le fait soi-même. On n'est pas du tout dans le même registre. Là. C'est pas une ampoule de 60 watts qu'on ajoute. Là. C'est une borne de recharge qui va nous donner quelque chose quoi entre 6 et 8 kilowatts de façon, comme tu as très bien expliqué tantôt, continue. Donc, je pense qu'il n'y a pas de place à s'improviser compétent dans quelque chose dans lequel on n'a pas les compétences. De toute façon, c'est illégal de le faire. Donc, mieux vaut y aller.
Si tu me permets, l'aspect pécuniaire de ça, c'est que si jamais, bon, vous allez me dire que ça n'arrive pas souvent, mais si jamais quelqu'un peut prouver que vous avez fait vos travaux vous-même, l'amende est de 5 000 à 175 206 $ exactement. Wow. Donc, c'est un certain risque aussi à ce niveau-là. Ouais. Puis, c'est pas nécessairement juste pour vous. C'est que si, par exemple, votre maison est collée à votre voisin, puis il arrive quelque chose, votre voisin aussi va goûter à cette erreur-là. Donc, la responsabilité, ça va envers vous, mais envers aussi peut-être vos voisins autour. C'est tout ça qu'il faut considérer, la plomberie, le gaz, l'électricité. C'est pas pour rien que la loi demande à ce que ce soit un entrepreneur avec assurance civile qui vient faire, ben avec les compétences aussi, évidemment, qui vient faire vos travaux. C'est qu'il y a vraiment un danger qui existe là, si c'est mal fait.
OK. Avant d'aller plus loin, tu as abordé le fait que si le panneau est trop petit, donc il n'y a pas de place physique ou de place électrique, tu as parlé d'un contrôleur de charge. Donc, juste pour expliquer, c'est un appareil qui va, sur le même circuit, par exemple, décider faire fonctionner plus d'un appareil, mais en alternance. Par exemple, la sécheuse, je dis n'importe quoi, là, puis tu pourras me corriger, mais mettons la sécheuse puis la borne. Quand la sécheuse marche, la borne ne marche pas, puis quand la borne marche, la sécheuse ne marche pas. Ça serait quelque chose comme ça?
Si on faisait ça il y a quelques 20-30 années, je dirais. Maintenant, ça a un petit peu plus évolué. Le contrôleur de charge, ce qu'il va faire, en fait, non, tu as partiellement raison, parce que maintenant, il y a deux modèles de contrôleur de charge sur le marché. Il y en a un qui effectivement va regarder ce que le four consomme, puis va louer le restant de la charge disponible. Donc, disons que le four fonctionne à 50% de sa capacité, il va louer le reste de l'ampérage disponible à la borne de recharge. Ça, c'est la première façon. Puis l'autre façon de faire, c'est que c'est un contrôleur de charge qui va lire le courant de l'entrée électrique au complet. Puis s'il se rend compte que la borne plus tous les autres appareils peuvent fonctionner en même temps, il va activer la borne, la recharge se fait comme d'habitude, puis je vous dirais que 95% du temps, ça va fonctionner, mais le moment où vous revenez du travail, vous prenez votre douche, le four fonctionne, la sécheuse, la laveuse, etc., qu'il ne reste plus de place en termes de puissance d'ampérage dans votre panneau. Et donc là, le contrôleur de charge va simplement désactiver la borne le temps que tout ça se calme. Puis dès que vous avez terminé de prendre votre douche, que le four a fini de chauffer, ben la borne de recharge se fait réactiver automatiquement, okay, sans aucune intervention de votre part.
Donc, en clair, on déplace la recharge de la voiture à un moment où les autres appareils tirent moins d'électricité. Donc, il y a de la capacité disponible dans le panneau et là, on la redonne au véhicule plutôt que de tout faire ça en même temps, là, d'avoir une demande synchronisée de tous les appareils en même temps. Cette belle exact. Petite boîte-là, évidemment, c'est un coût supplémentaire si on est obligé de mettre ça. On le met ça quand on n'a pas le choix. Là. J'imagine qu'on ne met pas ça pour rien. S'il y a de la place dans le panneau, sans ça, on ne la met pas. Si on est obligé de la mettre, il faut s'attendre à payer un surplus de combien pour ça, à peu près?
Ben, il y a différents modèles, comme je vous dis. Il y en a un, si je me rappelle bien, qui est à 500 $. On ne veut pas nommer une compagnie ici, je pense. Puis, il y en a l'autre qui coûte 1050. Donc, c'est entre 500 et 1050, dépendamment de l'approche qu'on choisit.
OK. Bon, ça donne une petite idée. J'imagine que si, et ça devient de plus en plus fréquent, les gens s'achètent une deuxième auto électrique. Puis là, ben, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est plate un peu de remettre... enlever nos pantoufles à 10 heures le soir pour aller débrancher la première auto puis aller rebrancher la deuxième pour que les deux puissent partir le lendemain. Et là, on se dit, ouais, je pense qu'une deuxième borne serait de rigueur. Est-ce qu'on peut installer deux bornes sur une maison? Est-ce qu'il y a des bornes qui peuvent recharger deux voitures à la fois? Quelles sont les alternatives?
Il commence à y avoir des bornes avec deux pistolets. Pour l'instant, elles coûtent deux fois plus cher. Donc, est-ce que l'avantage est là? Bon, ce sera à vous d'en juger. Il existe également des bornes qu'on dit intelligentes, donc connectées soit par Wi-Fi ou par Powerline Ethernet. Donc, comme dans le cas de la Flow X5, le signal se fait au travers du câble d'alimentation. Et donc, ces bornes-là vont se parler entre elles, puis on peut les configurer pour que collectivement, elles ne dépassent pas un ampérage donné. Donc, que vous ayez une borne à 30 ampères ou deux bornes qui se partagent 30 ampères, on s'entend que ça revient au même. Ouais. Donc, ce serait l'approche à privilégier à ce moment-là.
Excellent. Comme dernière question, et là c'est un point important, j'en ai parlé en entrée d'entrevue. Autrefois, il y a de cela pas si longtemps, le gouvernement, via ses programmes de subvention, a une subvention pour les bornes de recharge. Elle s'était séparée, là, l'installation. Il y avait une subvention pour l'installation, puis il y avait une subvention pour l'acquisition de la borne. Donc, 350, 250 $ pour un total de 600. Donc, on appliquait une sur l'achat, l'acquisition, puis qu'on pouvait faire n'importe où. Puis l'autre, ben c'était quand l'électricien venait à la maison. Donc, si on voulait l'avoir, la subvention, il fallait qu'un électricien vienne. Là, si je ne me trompe pas, cette loi-là a changé. C'est plus deux subventions pour acquisition et installation, mais c'est une seule subvention et c'est pour l'acquisition de la borne, c'est bien ça?
Oui, donc en fait, dans une maison résidentielle, le 600 $ pour le montant reste inchangé. C'est encore applicable à l'achat de la borne. Par contre, ils vont vous demander une preuve d'installation cette fois-ci. Okay. Donc, la loi demande encore à ce que ce soit un électricien qui installe votre borne, évidemment, pour des raisons évidentes. Mais pour obtenir votre chèque, vous allez devoir fournir une preuve d'installation à Transition énergétique Québec.
OK. Donc, on achète notre borne de notre électricien ou de où on veut, il n'y a pas de problème. Mais pour se faire rembourser un 600 $ sur l'acquisition de la borne, je dois fournir la facture d'acquisition de la borne, mais également une preuve qu'il y a un électricien qui l'a installé, cette borne-là.
C'est bien ça.
Donc, on ne peut pas, comme certains disent, se soustraire de l'obligation de faire installer la borne par un électricien en se disant, ben, je vais acheter la borne, je vais réclamer le 600 pour l'acquisition, puis je vais l'installer moi-même, puis je vais sauver. Si tu veux ton 600 pour la borne, il faut qu'un électricien prouve qu'il a fait une installation.
Oui, excusez-moi. Oui, c'est exactement. Évidemment, je ne travaille pas chez Transition énergétique Québec. Je serais porté à vous dire que si, parce que dans les nouvelles maisons maintenant, par la loi, tout ce qui est 5 logements et moins, il doit y avoir une prise électrique pour les constructions neuves, pour installation d'une borne de recharge. Donc, si la prise est déjà existante, j'ose croire qu'une photo serait suffisante. Là. Mais la grosse majorité des gens, évidemment, vivent dans une maison qui a plus que 2-3 ans. Donc, à ce moment-là, oui, ils vont certainement demander une preuve d'installation, comme tu viens de me dire.
Ben, excellent. Alors, François Charland, qui est propriétaire et maître électricien chez FFC Électrique, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour jaser tout ça avec nous aujourd'hui. J'espère que ça leur a donné plus d'informations à nos auditeurs.
Ben, ça fait plaisir, Martin. Puis, en passant, si vos auditeurs ont des questions, même si c'est que technique, même s'ils ne veulent pas nécessairement installer maintenant, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur notre page Facebook, FFC Électrique. Puis, vous allez pouvoir y voir en passant sur notre page quel type de camion d'installation on utilise. Petit indice, ils sont électriques eux aussi. Donc, voilà. Vous irez voir ça.
Excellent. Merci beaucoup,
merci.
François.
Bonne journée. Bye-bye. Merci. Bye.
C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la VEC.
Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446, ou arleco.ca.
Arleco, servir au-delà de la réparation.
De l'autre côté de l'Atlantique, avec Cédric Ingrand.
Alors, je suis en compagnie de Cédric Ingrand. Bonjour, bonsoir. Bonsoir pour toi, en fait.
Ah, ici, c'est bonsoir, Martin. C'est toujours un plaisir de te retrouver.
Pareillement. Je dois te dire d'entrée de jeu, Cédric, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur notre dernière et à la fois première chronique qu'on a fait ensemble. C'était très apprécié des auditeurs ici. Donc, merci beaucoup.
J'en suis ravi et j'en ai autant à ton intention. Tu as appris beaucoup de choses sur la voiture électrique par grand froid à mes auditeurs français, là, pour le
coup. Tant mieux, parce qu'on vient on se sort tout juste ici là, d'une vague de froid.
À vous aussi, ça y est.
Ah ouais. Mais on nous annonce des températures un peu plus automnales pour cette semaine, donc on va en profiter.
C'est déjà, vous passez directement de l'hiver à l'automne.
Non, généralement, on passe de l'hiver à 3 jours d'été, puis on revient à l'hiver. C'est comme ça que ça se passe ici. Bah, écoute, tu veux nous parler d'un phénomène qui a beaucoup fait jaser chez toi. En fait, Tesla qui a des baisses de prix substantielles. Parle-nous donc un peu de ça.
Oui, il y a une espèce d'effet domino qui s'est passé chez Tesla. C'est pas du tout un accident, mais des baisses de prix qui, tu vas le voir, font pas forcément toujours plaisir à tout le monde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur son modèle d'entrée de gamme, c'est-à-dire la Tesla Model 3 SR+, qui coûtait aux alentours de 49 000 euros chez nous. Tesla a fait une baisse de prix assez massive parce qu'elle est tombée à 43 600, si mes souvenirs sont bons, avant les options, la peinture, les jantes, etc. C'est pas mal. C'est pas la première fois que Tesla fait baisser ses prix, surtout sur d'autres modèles. Ils l'ont beaucoup fait sur la Model S et la Model X. Mais là, sur la Model 3 et surtout sur l'entrée de gamme, ça a eu un effet mécanique, j'ai envie de dire, c'est que tout à coup, elle est passée sous la barre des 45 000 euros. Et sous la barre des 45 000 euros, en France, tu as le droit à une subvention de 7 000 euros pour acheter ton véhicule électrique. Et du coup, tout à coup, la voiture qui valait 49 000 euros, si tu retires 6 000 puis 3 000, elle n'en vaut plus que 36. Ajoute à cela le fait que certains, par exemple, vont profiter de leur achat pour rendre un vieux véhicule diesel, un truc qui date d'avant, je crois qu'il est plus de 12 ans, et là encore, peut engranger 5 000 euros de primes supplémentaires, et tu es presque en train de tomber sous la barre des 30 000 euros. Ça change absolument tout, même dans la psychologie de l'achat. C'est-à-dire que tout à coup, ça, ajouté évidemment aux économies potentielles d'essence et du reste, fait que tout change. Alors, c'est des baisses de prix qui sont arrivées là depuis le début de l'année. Le problème, évidemment, c'est pour tous ceux, par exemple, qui avaient acheté leur Tesla Model 3 SR+ en décembre dernier ou en novembre dernier, et qui, eux, tout à coup, sont face un peu à un trou d'air en termes de prix. Alors, bon, rares sont les gens qui achètent une Tesla avec dans l'idée de la revendre dans 3 mois, 6 mois, mais ça peut arriver. Et voilà, donc il y a beaucoup de propriétaires récents qui se sont un peu plaints sur Twitter. Mais alors, ils sont plaints gentiment, hein. Il n'y a pas eu de manifestations violentes, hein. On a beau être en France. Mais par exemple, ils ont demandé à Tesla s'ils ne pourraient pas faire un geste. Par exemple, leur offrir la conduite autonome. Enfin, ouais, leur offrir des fonctions logicielles ou des recharges sur superchargeurs. Je ne pense pas que ça a été fait. En tout cas, je n'ai pas vu de communication de Tesla à ce sujet. Mais c'est vrai que là, tout à coup, la baisse de prix, en plus, change totalement les échelles de comparaison par rapport aux autres véhicules électriques disponibles sur le marché. Et il y en a de plus en plus. Chez nous, les Kia, par exemple, se vendent très, très bien. Moi, j'en vois de plus en plus dans les rues, sans compter, bien évidemment, la Zoé. On n'ira pas au-delà. Ici, la Zoé, c'est presque une religion. Ou encore d'autres choses. Qu'est-ce qu'on voit dans les rues en ce moment? Évidemment, des Nissan Leaf.
Mm-hmm. Ben, il faut expliquer peut-être aux auditeurs ici au Québec, nous n'avons pas cela, mais ça ne serait pas une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une subvention pour l'acquisition de la nouvelle bagnole qui sera électrique, il y a une remise en argent si on rapporte une voiture qui était considérée comme polluante, donc dans le cas des voitures au diesel de 12 ans et plus. Donc, ben oui. Non seulement on va vous donner une prime à l'acquisition de la nouvelle bagnole, mais on va vous donner également une prime lorsque vous rapportez l'ancienne bagnole. Donc, le 6 000 euros.
Et au-dessus de ça, si en plus vous êtes une petite entreprise de moins de 50 salariés et que vous êtes dans Paris ou autour de Paris, la région va vous donner 5 000 euros de plus. Enfin, à un moment quand même, tu vas juste avoir quelqu'un qui va venir te livrer une Tesla avant même que tu la demandes, parce qu'à ce prix-là, on se pose encore des questions. Moi, je connais des gens qui, tout à coup, ont décidé de se demander « est-ce que je vais passer à l'électrique ?» Et en fait, ils ne sont pas passés à l'électrique, ils ont juste pris une seconde voiture électrique, ne serait-ce que pour rater des effets d'aubaine, parce que ces primes-là, elles vont pas subsister dans
ça
le temps très
pas
longtemps.
Toujours, non. Effectivement. Écoute, on a vécu aussi des baisses de prix chez Tesla, parfois jamais de cette ampleur, cependant. Ça, évidemment, ça amène des grincements de dents, qu'il y a un peu de grogne, d'incompréhension de la part des gens qui viennent tout juste de faire l'achat à l'ancien prix.
Oui,
mais,
à l'ancienne, ouais, c'est difficile.
On ne peut pas être contre la vertu. Écoute, complètement ailleurs, on s'en va complètement ailleurs. Qui dit France dit forcément Renault. Tu en as parlé tantôt, la Zoé,
oui, la Zoé
qui est très connue. Mais Renault se lance, ou pas, je devrais pas dire se lance, mais relance un modèle mythique de la marque.
Ah oui, ça va changer. Ils avaient annoncé une conférence de presse qu'ils appelaient la Renaultution. Alors, parce que c'était pas juste l'occasion de dévoiler de nouveaux modèles, mais c'était vraiment l'occasion de redéfinir la stratégie de Renault. Constructeur emblématique quand tu es en France, bien évidemment. Et en gros, comme étendard de cette nouvelle stratégie, ils ont dévoilé le prototype de ce que sera la nouvelle Renault 5. Alors la Renault 5, pour tous les gens qui sont en France et qui ont plus de 45 ans, forcément, ça parle. Je pense qu'on est... On est quelques millions à avoir, par exemple, passé notre permis de conduire sur une Renault 5, qui était vraiment... c'était le standard de la petite voiture de l'époque. Et donc, évidemment, ça joue sur une nostalgie, ça joue sur tout ça. Mais évidemment, ce sera un véhicule 100% électrique. Et en plus, allez voir en ligne, tapez Renault 5. Vous allez voir à quoi ressemble le nouveau modèle. Elle fait vraiment envie. Ils sont gonflés. Ils l'ont même ressorti en jaune, le joli jaune du logo de Renault. Alors que c'est pas une couleur extrêmement... Chez nous, quand même, c'est un peu comme chez toi. Tout est gris clair, blanc, parfois un peu bleu, mais voilà, jaune, ça claque, ça donne vraiment envie. Renault qui est aussi à la tête d'autres marques, bien connues ici, comme Dacia, sa marque low cost, dont on attend beaucoup parce qu'ils vont sortir cette année, là, avec Dacia, la Dacia Spring, qui sera l'entrée de gamme de l'électrique chez nous. Elle devrait coûter 10 000 euros. Alors, une fois qu'on aura retiré les fameuses primes dont on parlait tout à l'heure, ne serait-ce que la prime à l'achat, mais donc elle devrait être aux alentours de 15 000 euros, probablement prix catalogue. Et là, forcément, ça change tout parce qu'on tombe sous une barrière psychologique qui fait que c'est très difficile d'imaginer encore acheter une voiture thermique. Ils ont d'autres marques, ils ont Alpine, ces très jolis petits roadsters sportifs dont ils ont annoncé que ça va devenir, là encore, une marque 100% électrique. Donc voilà, ils vont sortir, je crois, 7 modèles électriques entre maintenant et 2023. On aura donc le temps de s'en reparler, mais moi je suis quand même très pressé d'aller essayer dès que possible la future Renault 5.
Est-ce que Renault a parlé de ses intentions? Parce que je sais qu'ils ont travaillé de concert avec Nissan, entre autres, pour certains modèles de voitures. Est-ce que dans l'électrique, Nissan et Renault vont se dissocier ou vont continuer à faire des projets conjoints?
Non, l'un des grands axes de la Renaultution, c'est justement d'arriver à faire des économies, donc à rationaliser les technologies, les plateformes, arriver à redimensionner un peu toute la capacité industrielle qui va derrière. Donc, ils vont passer de 8 à 4 familles de moteurs. Là aussi, l'électrique, d'ailleurs, va beaucoup simplifier les choses. Mm-hmm. Oui, donc évidemment, il y a certaines de ces plateformes qui viendront de chez Nissan, d'autres de chez Renault. Alpine, ils vont travailler avec Lotus. Ça aussi, ça met la puce à l'oreille. On a envie de voir ce à quoi ça va ressembler. Mais oui, non, bien sûr, ils vont continuer. L'alliance continue.
Excellent. Ben écoute, Cédric Ingrand, c'est déjà tout. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Et puis, on se redonne rendez-vous dans quelques semaines.
C'est un grand plaisir, Martin. À très bientôt.
Merci beaucoup.
Comprendre son auto. En 60 secondes, top chrono. Est-il vrai qu'il faut éviter de brancher une voiture électrique sur une borne rapide? On entend souvent dire que l'utilisation des bornes de recharge rapide pourrait réduire la durée de vie d'un véhicule électrique. Sachez que l'ennemi de votre batterie, c'est surtout la chaleur. Évidemment, lorsqu'on charge sur une borne rapide, on envoie énormément d'énergie dans la batterie dans un court laps de temps. Évidemment, on la fait chauffer. Les batteries modernes sur les véhicules des 5 ou 6 dernières années sont très bien conçues de façon à éviter de faire surchauffer la batterie lorsqu'on la recharge sur des bornes rapides. Donc, normalement, si vous la chargez sur une borne rapide, le véhicule va refroidir la batterie ou alors, s'il n'y a pas de système pour refroidir la batterie dans le véhicule, la borne va envoyer moins de courant, va limiter l'énergie qu'on va envoyer dans le véhicule pour préserver la batterie. Ça va charger moins vite, mais on ne réduira pas la durée de vie de la batterie. Donc, si vous avez besoin de vous recharger rapidement, n'hésitez pas. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la pandémie, évidemment, les activités en présentiel de l'AVEC sont suspendues momentanément. Par contre, nous avons des kiosques virtuels d'information avec des réponses aux questions avec un panel d'électromobilistes d'expérience. Les prochaines dates sont mercredi le 17 mars à 19h30, jeudi le 15 avril à 19h30, également mercredi le 19 mai à 19h30 et mercredi le 16 juin à 19h30. Il y a également une conférence intitulée « La voiture électrique, est-ce pour vous? » C'est mardi le 20 avril à 19h. C'est offert par la FADOC et c'est une conférence de Simon-Pierre Rioux. Également, « La voiture électrique, est-ce pour vous? » Mercredi le 28 avril à 19h. C'est une présentation de la bibliothèque de Brossard. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule. Remercie tous ses collaborateurs et invités aujourd'hui, particulièrement François Charland, Cédric Ingrand ainsi que Nicolas Lambert. Nous remercions également le Garage Arlecault, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Pour toute question concernant l'émission, vous pouvez envoyer vos commentaires à martin@silenceonroule.com. Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archivesaupluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule!